La rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 19 novembre, j'ai pensé vous parler d'un des hommes les plus remarquables de ce siècle, à mon avis, et que j'ai eu la chance de connaître à l'Université de Montréal quand il venait de temps en temps ici au Québec, Joseph Folliet. C'est vraiment un saint, un laïc franciscain éminent qui s'est fait ordonner prêtre passé la soixantaine, qui est mort quelques années à peine après son ordination et qui était nourri de l'esprit franciscain. L'an dernier, je vous avais parlé, l'émission avait eu énormément de succès. Joseph Folliet, je vais vous entretenir de lui grâce à des indications qui m'ont été fournies par M. Julien Bernard de Longueuil, car j'ai beaucoup d'ouvrages de Joseph Folliet, mais je n'avais pas vraiment des choses sur sa vie proprement dite. Je tiens à leur remercier avant de commencer. Ici Raymond Beaugrand-Champagne. Dans un article paru dans Le Devoir à la suite du décès de Joseph Folliet, paru d'ailleurs quelques temps après, Gérard Lemieux, c'est paru le lendemain de sa mort, en fait. Oui, le lendemain de sa mort. Gérard Lemieux, qui était très connu ici au Québec, un chrétien profond, que j'ai beaucoup apprécié, qui était très actif, qui avait un esprit évangélique remarquable, Gérard Lemieux écrit donc dans Le Devoir au sujet de Joseph Folliet que c'était un journaliste, un poète, un prêtre pauvre et un frère universel. Joseph Folliet a publié, je crois, une quarantaine de volumes, d'une telle richesse que quand on se met à les lire, on est étonné de la qualité, de la profondeur de sa pensée. Il publiait d'ailleurs en 1959, donc 13 ans avant sa mort, Le Pèlerin de la Nuit. Il y parlait de la mort. Et Joseph Folliet écrivait « Ô mort, ô ma belle étoile, ô mon étoile polaire, dans les ténèbres du temps, ô mort, ô bonne tourière qui m'ouvre l'éternité. » Il utilise le mot tourière en rapport avec les sœurs cloîtrées, n'est-ce pas, qui sont autour, c'est-à-dire qui, elles, tournent un plateau à l'entrée du cloître afin de recevoir des dons ou d'y transmettre des choses, mais ce sont aussi des sœurs qui ont le droit de sortir du cloître. Il y en a ici au Carmel, près du métro, du métro Laurier. Et ce sont des sœurs tourières. Alors il dit aux morts, aux bonnes tourières. Hein, c'est la mort qui nous ouvre sur ce monde qui est le monde de l'infini. Donc aux morts, aux bonnes tourières qui m'ouvrent l'éternité. Ô mort, ô grande aumônière qui donne la vie de Dieu, ma sœur, la mort corporelle, ma sœur, la vie éternelle. En pleine vie, je me meurs. En pleine mort, j'ai la vie. Ça rappelle Saint Thérèse d'Avila, hein, je meurs de ne pas mourir. En 1972, le père Folliet avait donc 69 ans. Il souffrait d'arthrite depuis des années. Il avait été victime d'un premier accident cardiaque 2 ans plus tôt, en 70, puis sans venir, sa sœur, la mort. Alors malade, il a encore quand même la force de noircir de cette très très fine écriture des pages et des pages sur l'art de vieillir dans la joie. C'est un très beau livre, ça. Le soleil du soir. « Vieillir en beauté » paru au Centurion. J'en avais offert à l'époque un exemplaire en 1972 à ma mère, qui vivait dans une résidence à Sainte-Dorothée. Et j'y vois la dédicace que j'avais faite, ça me touche. Le livre m'a été remis par mon frère Guy. À maman qui a été le soleil de mon enfance, qui est toujours, tout au cours de ma vie, mon soleil, avec celui qui est le grand soleil. Et le titre donc de ce livre de Joseph Folliet, Le soleil du soir, vieillir en beauté. En février donc de 70, Le soleil du soir paraît. Je vous en lis un petit extrait. C'est une prière. Pourquoi pas commencer cette émission avec une prière de Joseph Folliet? J'ai vécu, Seigneur, la vie que tu m'as donnée. J'ai appris, aimé, souffert, combattu. J'ai cherché, par ma raison, à comprendre le monde. De clarté en clarté, de mystère en mystère, j'arrive maintenant au bout du mystère insondable. Rappelle-moi, Seigneur. J'ai compris, Seigneur, que la vie n'est qu'attente, attente de la lumière. Que la vie n'est que montée, montée vers l'amour. J'ai attendu, voici l'heure de la rencontre. J'ai monté en tombant, voici que souffle le vent du sommet. Rappelle-moi, Seigneur. D'ailleurs, un mois avant la publication de ce dernier livre, il écrivait justement à Gérard Lemieux, ici à Montréal, ce qui suit. Je suis encore obligé à beaucoup de soins, de précautions qui me pèsent, et je n'ai pas récupéré ma puissance de travail, étant condamné à un maximum de repos, mais malgré cela, j'ai encore beaucoup plus de travail que je n'en puis porter. Il n'est pas facile d'être catholique et prêtre dans la France actuelle, et de conserver l'indépendance de son esprit, sans s'inféoder à aucun clan. Je pense d'ailleurs que ce ne doit pas être plus commode au Québec. L'heure de la rencontre avec Dieu s'est produite subitement. La nouvelle de la mort de cet ami du Québec a laissé bien des gens d'abord tristes et silencieux. Puis, les souvenirs surgissent un à un, nous rappelant peu à peu les aspects essentiels de cette vie, de cette amitié qu'il avait pour tant de Québécois. Je me souviens des promenades que je faisais avec lui. Près de l'Université de Montréal, il habitait la même maison que moi, avec la belle Evelyne, qui était aumônier des étudiants de l'Université de Montréal. Et combien de fois j'ai mangé avec lui, là, dans cette maison, où nous allions nous promener après le repas. C'était un homme radieux de joie. Radieux, rayonnant. Ça fait penser à la messe d'aujourd'hui, qui commence avec ces mots du psaume 104. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu. Cherchez le Seigneur et sa force sans vous lasser. Recherchez son visage. Est-ce que ces textes sont beaux pendant la messe? Et dire qu'on paie si cher pour aller entendre au théâtre des choses souvent bien décevantes. Ne veut pas vous empêcher d'aller au théâtre. J'y suis allé si souvent. Au théâtre, je ne dis pas au cinéma, au théâtre. Et alors, la dernière lettre, la dernière rencontre, les pensées les plus intimes, et tout ça, ça a laissé dans le cœur de Gérard Lemieux des souvenirs énormes, car Gérard Lemieux était peut-être ici au Québec son meilleur ami. Il y a eu des témoignages de sympathie qui ont afflué à la chronique sociale. La chronique sociale, c'était un centre à Lyon qui était extrêmement important pour diffuser l'Évangile dans les milieux qui voulaient vraiment aider les plus pauvres, rendre la justice ou rendre la politique plus juste. Joseph Folliet vivait parmi les prêtres du Prado, fondé par Monseigneur Ancel, si je me souviens bien. Il faudrait que je vous parle de lui un jour. Cet évêque se promenait à bicyclette à Lyon. Les témoignages sont parvenus de partout à Lyon. Folliet, Joseph Folliet avait des amis sur tous les continents, au Québec plus particulièrement. Combien de gens de mon âge, 70 ans ou environ, on se souvient des séries de cours à l'une ou l'autre de nos universités, ou d'une conférence, d'une causerie, des entretiens personnels qu'on a pu avoir avec lui. Et sa participation aussi aux émissions de radio et de télévision à Radio-Canada. Combien de lecteurs vont se souvenir aussi de quelques-unes de ses publications? C'est ce que dit Gérard Lemieux dans Le Devoir. Ses publications, La spiritualité de la route, Le peuple et la culture, un très beau livre, Invitation à la joie. Ce livre extraordinaire que j'ai devant moi, L'avènement de Prométhée, d'un essai de sociologie pour notre temps, d'une telle clarté, d'une telle beauté, qu'il se termine, et je vous lis les dernières paroles, « Le sang et le feu coulent du cœur du Christ, nouveau Prométhée, unique Prométhée, qui, dérobant le feu du ciel pour le donner aux hommes, ne fait que prendre sur son héritage divin. L'humanité doit choisir entre la divinité de rapine que porte le Prométhée de la fable et la divinité de droit que le Christ, frère premier-né, communique à ses frères sous la paternité universelle, ineffable et transcendante. Entre le feu volé qui incendie le monde et le feu donné qui dévore d'amour, entre la fausse divinité de la révolte et la vraie divinité de l'adoption, entre Prométhée-Lucifer et le Christ-Prométhée, entre le Caucase où le titan foudroyé souffre une agonie éternelle, tandis que le vautour de la révolte et du remords lui ronge le foie, et le Golgotha où le Christ crucifié consomme la plénitude humaine, tandis que de son cœur coule le sang et le feu de la rédemption. Car le Dieu Père n'est pas le Dieu jaloux de la mythologie, et c'est lui-même qui nous envoie le vrai Prométhée, porteur du feu qui délivre et divinise. Quel souffle cet homme avait, c'est pas toujours de cet envol fantastique. Je vous en lirai d'autres sur la sainteté, qui sont d'une telle beauté, d'une telle grandeur, que ça fait de Joseph Folliet l'un des penseurs les plus remarquables de ce siècle. On peut se souvenir aussi d'autres livres, comme Les chrétiens au carrefour, L'information moderne et le droit à l'information, Le temps de l'angoisse et de la recherche. Il y avait aussi des articles qu'il publiait chaque semaine, dans les hebdomadaires français 7 et Temps présent. C'était l'époque d'une collaboration féconde en toutes sortes de jeunes intellectuels catholiques. Il y avait avec Folliet Stanislas Fumet, Jean Lacroix, Daniel Rops, François Mauriac et le fameux père Bernardo, dominicain, et Pierre-Henri Simon, et combien d'autres. Et Folliet a exercé à Paris son métier de journaliste au moins une dizaine d'années avant d'assumer à Lyon la responsabilité du secrétariat, de la chronique sociale et des semaines sociales de France. Je vous expliquerai tout à l'heure un peu l'action fantastique de Joseph Folliet. En 1934, Joseph Folliet a succédé à son ami, son maître à penser même dans un sens, Marius Gonin, dont il a écrit d'ailleurs une excellente biographie. Comme il l'a fait d'ailleurs pour sa secrétaire Sylvie Mijolet, compositeur de la musique de plusieurs de ses chansons, compagnon Saint-François comme lui, son fondateur. Alors, ces messages écrits ont rejoint des milliers de Québécois. Plus restreint cependant était le nombre, dirait-on, de ses auditeurs québécois à l'une ou l'autre de ses conférences aux Semaines sociales de France. Il y en avait qui traversaient, qui allaient là-bas. Et c'est là surtout que l'on pouvait découvrir cet organisateur infatigable, cet animateur intellectuel, et l'influence qu'il exerçait sur les catholiques sociaux, français, européens, africains et autres. Car c'était à la fois un engagé et un mystique. Qu'il suffise de prendre cet ouvrage « L'homme social ». On voit le titre et on dit « Bah, j'ai pas le goût de lire ça. L'homme social. C'est trop social, je suis plutôt de tempérament mystique, je préfère autre chose. » Mais je l'ouvre au hasard et je trouve des pages comme « Au sein du corps mystique, les hommes sont frères. » Frères sous la commune paternité du Père Céleste, doublement père et par la création et par l'adoption divine. Ce n'est pas un des moindres paradoxes de notre temps que de vouloir garder la notion et la réalité de la fraternité sans les référer à la paternité universelle et transcendante. Oui, nous sommes frères dans la fraternité de l'homme-Dieu, premier-né entre les hommes, par lequel nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous permet d'appeler Dieu notre Père et de répondre à la grâce de l'adoption divine, et nous sommes frères dans la maternité de la Vierge Marie, nouvelle Ève, mère des vivants, dont le Fiat accepte le don du Christ à l'humanité, et nous sommes frères par la charité qui les unit tous et leur inspire des actes fraternels aux hommes, et dans la communion des saints qui s'entraident, établit entre eux un courant mystérieux d'amour fraternel. Et il continue sur ce souffle pour bien nous enseigner que finalement l'histoire est faite par ce corps mystique du Christ, l'Église visible. Parce que si le monde entremêle son histoire avec celle du corps mystique du Christ qui est l'Église, c'est l'Église qui fait l'histoire. C'est ça l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas l'autre. Et c'est très beau ce qu'il dit à ce sujet. Chaque fois qu'il venait au Québec, Folliet était un homme mangé, dévoré. Et s'il était facilement accessible, il fallait parfois le défendre contre sa trop grande générosité. Il fallait prévoir des moments libres pour sa correspondance avec les institutions dont il était l'âme en France et à travers le monde. C'était Gérard Lemieux qui était responsable de son agenda. Et c'est Gérard Lemieux qui avait la tâche assez délicate de concilier les veilles personnelles de cet homme de prière qui priait la nuit, les rendez-vous dans les institutions les plus variées, les plus diverses, puis aussi ces moments de lecture, d'écriture à la maison dans laquelle j'habitais moi-même, tout près de l'Université de Montréal avec l'abbé Lévelyne, et nous recevions là Joseph Folliet. Malgré tant de travaux, il savait être disponible aux enfants, qui ne cessaient de lui demander de chanter chez ses amis quand il y visitait. Quel Français a eu une telle connaissance de nos institutions, une telle sympathie envers les catholiques engagés d'ici? Il écoutait, il interrogeait pour permettre à chacun d'aller au fond des choses. Puis il invitait toujours à la réflexion, Joseph Folliet. Il invitait aussi au travail, à l'action. Oui, Folliet a appris à nous connaître, nous, les Québécois, à nous aimer. Il a voulu nous faire connaître et nous faire aimer à travers le monde. En 1957, la Chronique sociale a consacré un numéro spécial sur le Canada français entre le passé et l'avenir. En 1958, dans le catholicisme mondial aujourd'hui, on peut y découvrir notre place dans la description des problèmes et des espoirs des nations. Durant ses 4 voyages au Québec, moi je l'ai connu lors de son premier voyage en 1948, mais il est revenu en 52, en 57 et en 62. Bien, Folliet, durant ses 4 voyages, n'a pas cessé d'observer la vie de notre peuple. Et chaque année, il faisait ici de nouveaux projets. Il savait qu'il y avait un dégel chez nous, selon sa propre expression. Il envoyait les aspects positifs et négatifs. Et son dernier espoir a été de nous visiter en 1970, mais 2 ans avant sa mort, mais l'état de sa santé, puis une grande surcharge de travail, d'ailleurs, c'était une surcharge habituelle et normale, l'en ont empêché. Sa dernière visite a été sa réponse à une invitation du mouvement des Jardins, en 1962. De cette conférence qu'il a prononcée à Lévis, où est le siège du mouvement des Jardins, on peut retenir un sous-titre qui est particulièrement important dans le cheminement pénible vers notre libération économique à nous, Québécois. Le titre « Contre un certain capitalisme, la coopérative ». Cette conférence a été un encouragement pour les coopérateurs, mais surtout une invitation à un effort plus généreux et plus audacieux. C'est cet effort qui nous est demandé actuellement par le gouvernement du Québec, en fait, et c'est très difficile. L'œuvre écrite de Joseph Folliet peut nous faire découvrir le journaliste, l'écrivain, le professeur, le poète et même le chansonnier, oui, le chansonnier, et le soldat et le prisonnier, puis le résistant durant la guerre, oui. Son savoir reposait sur une longue, une patiente et courageuse préparation qui a été soutenue par une ascèse, une discipline éprouvée et vécue, comment? Dans la pauvreté, je dirais même presque l'extrême pauvreté. 10 ans d'études universitaires en théologie aussi, et en sciences humaines, histoire, sociologie, lettres. Il a eu 2 doctorats, puis à l'âge de 66 ans, il en a obtenu un 3e. Et de ce dernier doctorat, dont la thèse portait sur l'information, il a pu écrire ce travail, c'est l'aboutissement. Et comme la conclusion, sinon le point final d'une carrière. 10 ans de journalisme amateur, 30 ans de journalisme professionnel, surtout dans l'hebdomadaire et la revue, mais aussi dans le quotidien, puis l'agence, voire occasionnellement la radio et la télévision, et non seulement comme directeur, mais comme administrateur, avec des responsabilités directoriales, une expérience longue, étendue et variée. C'était un bûcheur, concret et mystique à la fois, amoureux, dévoré par Jésus, très passionné de la Sainte Trinité. Cette culture vaste de Joseph Folliet tenait les intellectuels les plus éminents. Et pourtant, quelle simplicité chez cet homme, qui rassurait les plus humbles, les ouvriers, puis les paysans, les ruraux, les habitants, comme on dit ici. Ses contacts fraternels avec les militants de base dans l'Action catholique et les dirigeants des mouvements de jeunesse lui avaient appris très tôt ce que les professeurs ont beaucoup de difficulté à enseigner d'une façon vivante, faute d'être capable de s'insérer d'une façon désintéressée dans les milieux de vie simples. Parce que tous ces gens-là parlent souvent de transformation de la société, mais ne connaissent aucune famille pauvre, ne s'occupent pas vraiment des pauvres, mais pas lui. Joseph Folliet pouvait composer des chansons programmes pour les jeunes, puis parler avec aisance de culture populaire, parce qu'il connaissait le monde populaire. Il est demeuré fidèle aux qualités de son milieu familial, lui, le fils et le petit-fils de tisserands, oui, des ouvriers. L'amour du travail et des travailleurs, une facilité de contact avec les gens les plus humbles, les plus pauvres. Et il aimait l'entraide spontanée, ce qui explique un attachement préférentiel qu'il avait à la vie et à l'esprit de saint François d'Assise. Un combat ardent l'a habité toujours pour la justice, pour la liberté, pour la vérité. Il avait une disponibilité sans mesure, une résistance à tous les courants de pensée et les mouvements sociaux ou politiques irréalistes. Il sombrait pas dans les nuages. Et très tôt, Folliet s'est senti appelé au sacerdoce. Il était influencé surtout par les écrits, les œuvres du bienheureux père Antoine Chevrier, dont je vous ai parlé le 2 octobre 1995. La cassette est disponible d'ailleurs. Père Chevrier, un Lyonnais, fondateur des prêtres du Prado, dévoué par vocation aux paroisses ouvrières urbaines, et chez lesquels est entré Mgr Ancel, là je me souviens. En 1960, Joseph Folliet, dont il est question aujourd'hui à Rencontre spirituelle, ce saint, à mon avis, du XXe siècle, j'espère qu'il sera canonisé un jour. Donc Joseph Folliet, en 1960, avait conduit en France Gérard Lemieux, ce Québécois, il avait conduit Gérard Lemieux, son épouse, au Prado de Limonest, à quelques kilomètres de Lyon. Et ils avaient gravi ensemble, lentement, l'escalier. Car Joseph Folliet marchait péniblement, il montait plus difficilement. C'était déjà 12 ans avant sa mort, il vieillissait déjà. Au deuxième étage, il avait entrouvert la porte de la chambre de Monseigneur Ancel, qui était évêque auxiliaire de Lyon et prêtre du Prado, du Prado. Et qui exerçait pendant quelques années un humble métier ouvrier, hein. Il était évêque ouvrier, chose étrange. Et à côté de cette chambre, il y avait celle de Joseph Folliet, c'est une pièce exiguë, pauvre, humide et froide, dont la seule richesse consistait en une bibliothèque, nous raconte Gérard Lemieux. J'ai compris alors que cet homme, tant de fois diplômé par les universités, criait par sa vie l'évangile de l'humilité et de la pauvreté, dit Gérard Lemieux. Cette réalité me fit mieux saisir l'une de ses pensées alors que je l'interrogeais sur sa vocation de laïc chrétien. Pour être disponible en tout temps, avait répondu Joseph Folliet à Gérard Lemieux, pour être libre de dire la vérité à temps et à contre-temps, il me fallait accepter la vocation de célibataire et vivre toujours pauvrement. Joseph Folliet souhaitait la multiplication de vocations de laïcs célibataires et pauvres, dans tous les milieux, voués aux apostolats les plus diversifiés dans notre monde sans âme. D'ailleurs, il est curieux de constater que dans les milieux les plus pauvres, ceux qui y vivent volontairement sont presque tous, à mon avis, sinon tous, des chrétiens et particulièrement des catholiques. On me dira que je suis chauvin, mais ça n'empêche pas que c'est vrai. Ce mystique réaliste ne dédaignait pas les moyens pauvres. Pour accomplir vraiment un apostolat authentique. Et ses proches collaborateurs, la Chronique sociale, savent que celui qu'on appelait de son nom de plume frère Genièvre, c'était d'ailleurs son nom de tertiaire franciscain, bien il était un frère quêteur aussi. On n'a qu'à se souvenir de sa valise, à moitié brisé, de son contenu quand il arrivait au Québec, de l'hôtel qu'il habitait quand il allait à Rome à titre d'expert du Concile. Il habitait un hôtel très pauvre à Rome. C'était un organisateur, hein? Et Gérard Lemieux a quêté pour lui à Rome parce que les pères du Concile, finalement, sous les instances de Gérard Lemieux, on versait discrètement des petites aumônes pour remercier Joseph Folliet lors d'une conférence gratuite qu'il leur a faite sur le triomphalisme de l'Église. C'est bon de parler du triomphalisme aux évêques de cette époque. Mais pourquoi sa vocation au sacerdoce, qui était si précoce dans sa jeunesse, ne s'est réalisée que si tardivement? On se souvient d'un entretien qu'il a eu avec le cardinal Verdier. L'archevêque de Paris lui suggère de poursuivre des études en théologie tout en demeurant laïque. Et c'est un moment décisif de sa vie. Et ça a ouvert un chemin nouveau aux laïcs, un appel d'en haut, une réponse d'en bas. Et les laïcs n'étudiaient pas la théologie à cette époque. Donc un appel d'en haut qui venait du cardinal, mais aussi une réponse d'en bas, des laïcs. Évidemment, c'est lui qui disait ça, Joseph Folliet. Évidemment, chacun a sa vocation propre, mais la sienne, on ne peut que l'admirer. Et entre ses nombreuses et longues études, s'est écoulé plus de 40 ans de service généreux à la communauté, de l'Église, partout. En France, comme dans d'autres nations, et surtout ici, au Québec. Après ces années de combat pour la promotion des valeurs fondamentales de la personne, puis des groupes humains, après des années de dévouement à la création d'une nouvelle société plus juste, pour chaque homme, pour les hommes. Il a pu enfin, en 1969, devenir prêtre, 3 ans avant de mourir, sans que son caractère sacerdotal ne le sépare du monde, pas du tout. Ça ne l'a pas éloigné de son idéal de paix et de joie pour tous les peuples de cette terre où nous sommes tous en exil, comme il disait. Joseph Folliet, l'inoubliable, comme Gérard Lemieux l'a appelé, a écrit « J'ai compris, Seigneur, que la vie n'est qu'attente. Attente de la lumière, que la vie n'est que montée, montée vers l'amour. » Il avait écrit une très belle prière intitulée « Je n'ai plus rien ». Puisqu'il a été question de sa pauvreté extrême, on peut la prier ensemble et souhaiter d'en faire autant. « Je n'ai plus rien, c'est pourquoi j'ai la joie. » Plus rien qui pèse en mes poches et m'attache à la terre. Plus rien qui, me retenant au sol, m'empêche de sauter jusqu'aux étoiles. Ah, je suis libre comme l'eau qui court et le vent qui passe. Qui perd tout gagne encore, et qui se perd trouve la joie. Je n'ai plus rien. C'est pourquoi je m'identifie à la joie. J'ai perdu toutes les mousses qui s'accrochaient à mon identité, et mon identité même, je l'ai perdue. Je ne suis même plus moi, puisque je suis le Christ. C'est cette allusion à la parole de saint Paul, « N'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Ce n'est pas de la prétention de la part de Joseph Folliet, ni de saint Paul. Je ne suis même plus moi, puisque je suis le Christ. Mais étant le Christ, je suis la joie. Ma joie est à Dieu, et moi je suis à Dieu. Ma joie est rivée à Dieu, et moi je suis scellé à Dieu. Ma joie et moi, nous appartenons à Dieu. Nul ne me l'enlèvera. Si tu veux me ravir ma joie, viens la prendre dans les mains de Dieu. Ça nous fait penser non seulement à l'antienne d'ouverture de la messe d'aujourd'hui, mais à la communion qui termine la messe, l'antienne de communion, du psaume 19. Joyeux d'être sauvés, nous acclamons le nom de notre Dieu. Tous les catholiques qui iront à la messe partout à travers le monde aujourd'hui, après avoir reçu l'Eucharistie, pourront crier ces deux lignes. Joyeux d'être sauvés, nous acclamons le nom de notre Dieu. On nous dit que la messe est ennuyante. C'est parce que nous n'avons pas d'yeux et d'oreilles dans notre cœur pour entendre ces choses intérieurement. Quelques mois avant sa mort, Joseph Folliet a accordé une entrevue à Michel Leclerc pour la revue Ecclesia. Et on sait qu'en 69, Joseph Folliet s'est fait ordonner prêtre. Donc, au grand étonnement de tous ceux qui croyaient connaître ce sociologue, ce journaliste, ce responsable de la chronique sociale de France, il avait 65 ans. Quelque temps avant sa mort, je vous l'ai dit, un accident cardiaque l'avait contraint à un semi-repos, mais il a continué à prêcher quelques retraites. Et il écrit des articles de journaux, des livres, le dernier, Le temps de l'angoisse et de la recherche aux chroniques sociales, et publié par les chroniques sociales. Ça prouve bien que cet ancien polémiste, cet admirateur de Léon Blois, n'avait rien perdu de sa vigueur, de croyant. « Je me suis résolu, écrit-il, à parler avec passion, avant que la maladie ou la mort me ferme la bouche. » Et son but, il l'avoue, c'est tout simplement d'inviter les catholiques à un peu plus de sérieux. Je fais penser à une dame qui m'a téléphoné hier, ça m'a fait fâcher. Elle me dit, il y a 3 femmes qui ne veulent pas donner d'argent à Radio Ville-Marie parce qu'à Radio Ville-Marie, ils ont entendu il y a quelques mois telle chose. Mais je me demande pourquoi ils donnent de l'argent à l'Église catholique. L'Église catholique a été fondée par 12 apôtres, par Jésus avec 12 apôtres, et l'un d'entre eux a trahi. Donc c'est pas une très bonne Église. Et par la suite, il y a eu des trahisons constantes, il y en a toujours. Il y a des gens à l'intérieur de l'Église qui disent des insanités. Alors, Il ne faudrait pas aider cette église. Je ne comprends pas des gens qui ne veulent pas aider Radio Ville-Marie, qui ne veulent pas devenir amis de Radio Ville-Marie, qui ne veulent pas verser chaque mois un petit montant, petit pour aider. Grand Dieu! Un peu plus de sérieux, dit Joseph Folliel. Il habitait une maison de religieuse à Lyon, près ses quartiers d'hiver, dans la banlieue résidentielle de Lyon. Et Joseph Folliel, c'est un vrai Lyonnais. C'est à Lyon qu'il est né, Lyon qu'il a passé presque toute sa vie. Son père, je vous l'ai dit, travaillait dans la soie, c'était un tisserand, comme son grand-père. D'ailleurs, il parle avec tendresse de tout ce folklore, si on peut dire, qui est disparu de ce travail. Autant sa jeunesse, il est déjà très doué pour les études. Il s'orientait vers les carrières intellectuelles un peu contre le souhait de ses parents. Et après une licence d'histoire, il avait songé au sacerdoce. Puis là, il est allé à Paris pour entrer au séminaire des Carmes et suivre les cours de l'Institut catholique. Et là, il y a trouvé des confrères qui étaient promis au plus brillant avenir. Avec qui a-t-il étudié? Avec nul autre que Jean Danielou, qui est devenu le cardinal Danielou. Je vous ai fait une belle émission, là, au début de septembre, me semble, le 4 septembre. Les gens ont beaucoup aimé ça, le cardinal Jean Danielou. Puis Jean Villot aussi. Cardinal, il a pour supérieur le futur cardinal de Paris, Monsieur Verdier, Jean Verdier, sulpicien, qui va lui conseiller de faire des études de théologie. Il dit, j'étais 4 ans interne au Carme à Paris, c'est un séminaire différent de celui d'ici les Moulineaux. J'avoue, dit-il, que le sacerdoce tel qu'on le vivait alors ne me plaisait pas tout à fait. Je n'avais aucune envie de faire une carrière. Je ne voulais pas non plus devenir un prêtre franc-tireur plus ou moins en marge des autres. Et puis, les angles de mon caractère étaient un peu trop saillants. Depuis, se sont émoussés, à moins qu'on ne se soit habitué à moi. Si bien qu'un jour, le père Verdier m'appela, comme on le sait, n'est-ce pas, pour me suggérer de prendre un peu de chant. Et je pourrais continuer mes études, mais comme externe. Il m'a fallu donc prendre une chambre en ville, et trouver du travail pour la payer. C'est ainsi que, tout en continuant à suivre les cours de l'Université catholique de Paris, je suis devenu journaliste. Comme simple pigiste, dit Joseph Folliel, j'ai travaillé à la première Vie catholique, cette revue très connue en France, vous la connaissez peut-être. J'ai collaboré au démarrage de Temps présent, une revue très importante, et puis je suis devenu secrétaire de rédaction à Sept, une autre revue très importante, la revue des chrétiens de gauche. Chrétien de gauche, il dit, oh, je l'étais, bien sûr. J'ai connu et aimé et admiré Marc Sangnier, dont Henri Guillemet nous avait parlé longuement à la télévision ici, Marc Sangnier. Je vous en parlerai un jour. Et il ajoute, Joseph Folliel, j'avais fait sa connaissance à Lyon lors d'une réunion publique, où il s'était fait chahuter assez vigoureusement, et dès 1923, j'avais adhéré à la Jeune République et je restais très lié à Marius Gonin, le fondateur de la chronique sociale, Marius Gonin, qui a été son maître à penser, et il ajoute, et c'est pourquoi la mort de Marius Gonin, à la mort de Marius Gonin, je suis revenu à Lyon pour diriger la chronique sociale. Et puis, dès lors, la chronique sociale va absorber le plus clair du temps de Joseph Folliel. Ce journaliste va devenir sociologue, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre une collaboration avec Témoignages chrétiens, avec le journal La Croix, dont on vous cite souvent des extraits à Radio Ville-Marie, à la Vie catholique, hein, qui ne se rappelle pas, parmi les gens de mon âge, là, les propos de l'innocent, puis de leur auteur, les signés Frère Genièvre, on lisait ça avec joie, hein. Frère Genièvre, même c'est Joseph Folliel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Joseph Folliel, malgré sa maladie, puisse publier encore un livre avant de mourir, Le temps de l'angoisse et de la recherche, c'est le titre. Je voulais d'abord rappeler, et c'est très important ce qu'il dit, que le renouveau de l'Église n'a pas commencé avec le Concile Vatican II. Il a, en tout cas, été longuement préparé. Ma génération, surtout en France, a vu le catholicisme en ascension quasi verticale. C'était le temps des grands convertis, comme Claudel ou Chesterton. Le temps des grands écrivains, comme Mauriac. Le temps des grands philosophes, comme Maritain, dont j'ai eu la chance de suivre les cours à l'Institut catholique de Paris. Un bouillonnement extraordinaire faisait surgir les mouvements d'action catholique, ouvrait sur le catholicisme social les plus exaltantes perspectives. J'ai d'ailleurs fait une émission que je vous signale le 19 décembre de l'an dernier, les grandes conversions subites, dont celle de Saint Paul, d'André Frossard, de Paul Claudel et de Blaise Pascal, ça avait eu beaucoup de succès. C'est très beau ces récits de conversion, mais je me souviens dans mon enfance, dans ma jeunesse, nous étions toujours touchés par ces grands convertis. Et Joseph Folliet ajoute, certes l'Église d'avant le Concile avait ses défauts, je les rappelle, dit-il dans mon livre, elle était parfois autoritaire, puritaine, réactionnaire, pleine de mépris pour le monde en adoration du monde. Quand retrouvera-t-on un peu de mesure, dit-il. Non, je ne suis pas devenu intégriste, ajoute-t-il. À mes yeux, les intégristes ont un grand tort. Au lieu, les intégristes, de défendre les vraies valeurs, ils perdent leur temps à se battre pour de simples habitudes. Non, si les intégristes comprenaient ça. Et il ajoute, mais je n'ai pas davantage de sympathie pour la plupart des contestataires. Ah, ah, qu'est-ce qu'il dit? Ils font beaucoup de bruit, mais ils ne font guère que cela. Tu causes, disait le perroquet de Zazie, Zazie dans le métro. C'est tout ce que tu sais faire. Il n'y va pas de main morte. Hein? Alors il ajoute, on m'objectera que je condamne le passé et rejette le présent tout à la fois. Et même si c'était vrai, il me resterait l'avenir et l'éternité, ce qui n'est pas rien, mais je m'explique. Dans le passé, je refuse tout ce qui me paraît omission, désertion, déviation. Tout ce qui n'était pas la tradition avec un T majuscule, mais des habitudes et des coutumes en rapport avec un état social. Je refuse non point tout, mais la plus grande partie de ce que je regarde comme des influences bourgeoises, devenues des contaminations. Il a bien raison. Respecter la grande tradition de l'Église, mais laisser tomber tout ce qui est du bourgeoisisme, des excès inutiles, si contraires à l'Évangile. Il ajoute, Joseph Folliet, dans le présent, je rejette tout ce qui me paraît réaction aveugle contre le passé. Car on ne redresse pas une erreur par une erreur inversement symétrique. Et la barque de pierre ne se conduit pas à coups de gaffe. Je rejette aussi tout ce qui me paraît la conséquence de modes intellectuels voués à la mort dans une société où la mode remplace la coutume. Et encore tout ce que je regarde comme des anticipations imprudentes et maladroites sur un avenir imaginé plutôt que pensé. Quelle lucidité, quelle logique. Je vous ai parlé quelquefois du livre « Le plaidoyer pour Jean-Paul II » d'Honorio. Voilà un livre qui nous fait réfléchir dans le même sens. En somme, ce tableau est sombre et Joseph Folliet, on aurait pu penser qu'il est mort pessimiste, il demande seulement au fond qu'on s'attelle sérieusement aux vrais problèmes. Par exemple, qu'on tire les conclusions, pour l'Église comme pour toute la vie humaine, des mutations accélérées que notre monde est en train de subir. Et Joseph Folliet ajoutait, « C'est à regret que j'emploie ce terme de mutation. Je ne trouve pas de terme plus adéquat. Le changement est trop rapide pour mériter le nom d'évolution, et trop déterminé, trop indépendant des volontés humaines pour appeler celui de révolution. » Il ajoutait, où nous conduit cette course, à mon sens, vers un monde de plus en plus technique, de plus en plus industrialisé, de plus en plus urbain et de plus en plus unifié. Or l'Église, je ne pense pas seulement à la hiérarchie, mais à tout le peuple de Dieu, si elle est prise dans le monde d'aujourd'hui, reste encore pour une bonne part engagée dans le monde d'autrefois, le monde que nous avons perdu. Elle est encore pour une partie d'elle-même pré-industrielle, rurale, géographiquement divisée. En outre, elle a pris, au cours des siècles, certaines habitudes de lenteur dont elle a du mal à se départir. Et Joseph Folliet termine en disant « distorsion douloureuse ». On pense à un homme qui, enterré jusqu'à mi-corps, voudrait courir. Eh bien, je pense qu'on peut expliquer ainsi, du moins pour une bonne part, la crise dont souffre l'Église. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'elle doit se débarrasser totalement du passé. De toute façon, sa mission est d'en garder ce qu'il contient d'éternel. Et c'est ce qu'on trouve dans ses livres. Et c'est ce qu'on trouve en particulier dans ce très beau livre, « Le catholicisme mondial aujourd'hui ». Je ne saurais trop vous recommander de le trouver dans votre bibliothèque ou dans des bibliothèques publiques. À la page 119, il est écrit « La spiritualité et la sainteté du catholicisme contemporain. Il écrit ces lignes. Oh, un jour, je vous ferai peut-être une émission spéciale sur ce chapitre de Joseph Folliet. Si tu veux connaître une époque, interroge les saints qu'elle a donnés au monde et à Dieu. Car toute époque a sa spiritualité, sa manière d'aller à Dieu, soit par des sentiers nouveaux et propres, soit par les chemins éternels, mais qu'elle suit à sa façon. Devotio moderna, disait-on, du courant spirituel qui, à la fin du Moyen-Âge, a porté et porte encore jusqu'à nous un livre immortel, l'imitation de Jésus-Christ. Les saints d'une époque expriment sa spiritualité en la portant à son maximum de rigueur logique et pratique. Si tu veux, par exemple, connaître les virtualités du XVIe siècle, déviées par l'effroyable malentendu de la réforme protestante et par la paganisation de la Renaissance, regarde les grands saints de ce siècle. Une Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila, un Jean de la Croix, un François de Sales, un Ignace de Loyola, un François Xavier, enfin et peut-être surtout, un Thomas More ou Thomas More. Il ajoute, nous considérons trop les saints comme intemporels, figés dans leur éternité bienheureuse, anges, figures de vitrail ou plutôt abstraction mal incarnée. Ils sont des hommes, des femmes, et du coup fidèles à la vocation et à l'esprit de leur temps. Car dans le plan de Dieu sur l'histoire, chaque époque a ses virtualités à épanouir par une réalisation que le monde n'avait jamais vue et ne reverra jamais, sa consigne à transmettre à l'avenir, sa pierre à porter pour la construction de la Jérusalem céleste que la durée terrestre édifie en pleine éternité. À cet appel de Dieu, l'époque peut répondre ou se dérober. Son bilan peut être positif ou négatif. Ainsi, le siècle d'Auguste, la paix romaine étendue à l'Occident, préludant à la diffusion universelle de la seule nouvelle qui compte. Oui, la seule nouvelle qui compte. C'est quoi? Nous avons un Père qui est Dieu. Nous sommes les frères du Dieu incarné. Nous sommes habités par l'Esprit-Saint. De plus en plus, dit Joseph Folliet pour nos contemporains, l'ascèse en vient à se fondre avec la pratique héroïque et amoureuse de ce que les moralistes appellent les devoirs d'État. Or, l'extraordinaire d'aujourd'hui, c'est souvent la perfection de l'ordinaire. N'oublions jamais ça. Ne cherchons pas midi à 14 heures. Faisons ce que nous avons à faire.